appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous attendons vos réactions et vos témoignages sur les violences qui ont ensanglanté le Mali. Je vous rappelle que vendredi soir, le cœur de Bamako a été le théâtre d'un attentat faisant 5 morts. C'est d'ailleurs la première fois que des Occidentaux sont visés dans la capitale. Dimanche, c'est la base des casques bleus à Kidal dans le nord qui a été la cible des attaques. Alors dites-nous si vous êtes surpris par cette recrudescence de la violence qui intervient à un moment crucial dans les pourparlers, puisqu'il y a tout juste 10 jours, le gouvernement malien a paraphé un accord avec certains groupes armés, mais plusieurs mouvements rebelles ne l'ont toujours pas signé. Alors quel avenir pour le processus de paix au Mali? 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup de réactions, notamment par exemple celle de Sangaré qui nous dit que tant que l'armée malienne restera cantonnée dans certaines zones du nord et que le MNLA continuera à circuler librement avec les armes, le pays ne retrouvera pas la paix ni la sécurité. Partagez-vous cette analyse, on vous attend au standard et nous vous donnerons la parole dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction d'RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons sur notre antenne. Et nous avons reçu plusieurs questions, mais c'est Boubacar qui va se faire le porte-parole de ces différents auditeurs. Boubacar, bonjour, vous êtes à Conakry. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions, vous, sur ce plan Marshall destiné à électrifier tout le continent africain?
Effectivement, Juan Gomez. C'est un plan qui fait rêver. Et Jean-Louis Borloo a exposé devant un parterre de personnalités la semaine dernière son plan Marshall, que moi j'appellerai désormais plan Borloo pour l'électrification de l'Afrique. Mais ce plan, j'aurais aimé connaître les différentes lignes, les grandes lignes de ce plan et son calendrier de réalisation. Mais ensuite, ce plan nécessite 200 milliards d'euros, oui. 4 milliards de subventions. Donc c'est énorme, bien que ça nous fait rêver. Alors comment M. Borloo veut bien réaliser ce financement?
Ouais, c'est vrai que c'est un vaste projet, c'est très ambitieux, hein, puisqu'on estime que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit les 2/3 de la population africaine. Bonjour Amélie Tullet.
Bonjour Juan,
merci
bonjour,
d'être avec nous Amélie. Vous étiez la semaine dernière aux côtés de Jean-Louis Borloo lorsqu'il a présenté sa fondation baptisée Énergie pour l'Afrique. L'objectif, on l'a compris, c'est de développer le réseau électrique sur le continent africain. En quoi consiste donc cette agence? Comment va-t-elle travailler?
Alors l'idée, pour l'instant, de Jean-Louis Borloo, c'est une agence continentale, un peu sur le modèle de la Banque africaine de développement, avec à la tête de cette agence un directeur africain, une équipe composée d'Africains désignés par les dirigeants des différents pays du continent. Ensemble, ils devront gérer un compte en banque, pour faire simple. Leur mission, ensuite, c'est financer des projets d'électrification sur tout le continent. Alors ça peut être des projets locaux, sur une commune, sur une agglomération de communes. Ça peut être des projets nationaux, transnationaux, sur plusieurs pays. L'idée aussi, Boubacar, c'est de favoriser le développement de projets durables, utiliser l'éolien, donc l'énergie du vent, l'hydraulique pour l'eau ou encore l'énergie solaire. La précision que Jean-Louis Borloo a présentée la semaine dernière lors de sa conférence de présentation de cette fondation Énergie pour l'Afrique, c'est la non-conditionnalité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets seront financés sans qu'on pose de conditions en échange de l'argent. Pas de conditions de démocratie ou de droits de l'homme. L'ancien ministre français de l'écologie dit qu'il ne veut pas qu'on inflige une sorte de double peine à ceux qui vivent dans des pays dirigés par des régimes autoritaires et qui n'ont pas en plus l'électricité. Alors, vous avez parlé du calendrier.
Bah oui, parce que Borloo, lui, dit c'est un plan qui devrait s'étaler sur 10 ans. Est-ce qu'on en sait un peu plus?
Et alors, il parle d'objectif 2025. Pour l'instant, le calendrier, il n'y a pas de grandes étapes précisées. La première à bien avoir en tête, c'est que Paris se prépare à accueillir pour décembre la grande conférence internationale sur le climat. Jean-Louis Borloo, donc, aimerait, dans l'idéal, que son agence africaine de l'électrification, enfin son, cette agence africaine de l'électrification, soit mise en place avant la fin du mois de juin pour qu'elle puisse se mettre au travail rapidement et qu'il y ait des choses concrètes à présenter à cette conférence en décembre.
Ouais, Boubacar le rappelait à l'instant, selon Jean-Louis Borloo, il faudra mettre sur la table 200 milliards d'euros, c'est une somme colossale. Comment va-t-il financer ce plan d'électrification ?
Alors 200 milliards d'euros, c'est l'évaluation sur cet objectif de 2025 pour l'électrification du continent. Mais ce que dit Jean-Louis Borloo, c'est que pour financer cette électrification, il ne faut pas investir 200 milliards d'euros d'aide. En fait, il faut investir le quart de ce montant en aide publique, en subvention, en international, et qu'ensuite, le secteur privé va suivre et va investir de lui-même parce que ça va être de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités pour les entreprises, qu'elles soient africaines, françaises ou européennes. Donc Jean-Louis Borloo estime qu'il suffirait de 50 milliards d'euros d'aide internationale pour lancer ce projet.
Pour commencer, oui.
Voilà. Et donc pour réunir cet argent, son projet, c'est de mutualiser les fonds qui ont déjà été promis par le passé, mais qui n'ont jamais été versés. Par exemple, le fonds vert de Copenhague ou l'initiative américaine Power for Africa.
De Barack Obama, oui, qui avait beaucoup fait parler en son temps. Et pour l'instant, on ne sait pas où il en est, Barack Obama, dans ce projet d'électrification.
Donc, on voit Jean-Louis Borloo est preneur, en tout cas. Et les questions qui se posent, sur lesquelles on n'a pas encore vraiment de précision, c'est où pourrait se trouver cette agence africaine de l'électrification, qui pourrait en être le directeur. Et puis, est-ce que ces fonds qu'on a promis par le passé vont être, cette fois pour de bon, débloqués pour ce projet Borloo? Voilà, à suivre. Ouais.
Croyez-vous au projet de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy? Si vous souhaitez commenter évidemment cette ambition, eh bien n'hésitez surtout pas à nous appeler, on pourra en parler vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi vous commentez de l'actualité de votre choix. Boubacar, on a répondu à vos questions?
Oui, on a répondu à mes questions et ça me permet de rêver même.
Bon, espérons en tout cas que ce projet se réalise un jour. Merci de nous écouter à Conakry. Amélie Tullet, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Il est 9h17 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Bonjour Fiston.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous nous appelez du Togo, vous êtes à Kara exactement. Et vous avez des questions, vous, sur la colère des étudiants en Birmanie.
Effectivement, j'ai appris la semaine dernière sur RFI que les étudiants de la Birmanie ont manifesté contre l'application par le gouvernement birman d'une loi sur les réformes scolaires. Et j'ai à ce sujet deux questions. D'abord, pourquoi ces étudiants s'opposent-ils à cette loi? Et pour finir, peuvent-ils obtenir gain de cause et est-ce qu'ils ont reçu un soutien extérieur, en particulier celui de la célèbre opposante birmane Aung San Suu Kyi?
Ah, est-ce qu'Aung San Suu Kyi soutient les étudiants? Bonne question, effectivement. Bonjour Juliette Garbrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service international d'RFI. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs semaines que les étudiants birmans dénoncent cette nouvelle loi sur l'éducation, une loi qu'ils jugent antidémocratique. Que reprochent-ils concrètement à ce projet de loi?
C'est un projet, rappelons d'abord, qui a été adopté en septembre dernier et qui concerne l'ensemble du système éducatif, de la maternelle à l'université. Donc c'est une réforme très importante du président Thein Sein. Elle est contestée par les étudiants, mais pas seulement, aussi par des enseignants et d'autres membres de la communauté éducative. Alors, les étudiants ont présenté 11 revendications au gouvernement. On va donner juste les principales. Oui. La première chose qui ne leur convient pas, c'est la centralisation excessive du système éducatif dans le texte. Ce qu'il demande, c'est plus d'autonomie pour les régions et les établissements, de la liberté sur les recrutements, les programmes, etc. Ensuite, il demande la protection de la représentation syndicale des étudiants et des enseignants, parce que en Birmanie, les syndicats ne sont pas interdits, mais ils n'ont pas de reconnaissance ni de cadre légal, donc autant dire aucune protection de leur activité. Ensuite, ils réclament la liberté d'enseigner dans les langues des minorités ethniques, question ô combien sensible en Birmanie. Ils réclament également l'accès à l'éducation des enfants handicapés, que les étudiants qui avaient été exclus lors des précédents mouvements de contestation aient le droit de se réinscrire. Et puis, ils demandent que le budget de l'éducation soit révisé, porté à 20% du budget national. Précisons quand même qu'il est de 4% aujourd'hui, ce qui est très peu. Le gouvernement propose 6%. Voilà.
Ouais, donc, effectivement, on comprend mieux les revendications estudiantines. C'est un vieux débat tout de même, Juliette, en Birmanie. Ça fait déjà des mois et des mois qu'on en en parle.
Oui, enfin, ça fait plus d'un an, hein. C'était un gros projet de loi. Donc, le gouvernement avait mis en place des consultations. Il faut moderniser ce système éducatif. Mais en fait, il n'a pas tenu compte, d'après les opposants, de l'avis de la société civile et des différents rapports qui lui ont été remis. Il y a eu la création d'un réseau national pour la réforme de l'éducation, le mouvement des étudiants, certains professeurs. Bon. Et lassé de ne pas être entendu, les étudiants ont commencé à manifester en novembre dernier. À ce moment-là, ils ont donné 60 jours au gouvernement en disant « ça suffit, maintenant, faut nous écouter, faut qu'on discute ».
Donc, ultimatum des étudiants.
Voilà. Et le 20 janvier dernier, ils ont lancé les marches dans plusieurs régions du pays.
Voilà, des marches en direction de la capitale pour manifester évidemment leur mécontentement. Fiston nous demandait si les étudiants bénéficient d'aide, en tout cas d'un soutien populaire, et s'ils peuvent obtenir gain de cause. Quelle est leur marge de manœuvre et leur chance de succès aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, c'est très difficile à dire. Il y a quelques jours, ou il y a une semaine, on aurait pu dire que ça s'annonçait assez bien. Le 14 février, d'ailleurs, ils pensaient avoir obtenu gain de cause, parce qu'il y avait eu une réunion, un accord avait été trouvé avec les autorités. Et puis finalement, le gouvernement a dit, voilà, oui, on est d'accord sur vos 11 points, sauf qu'il faut que le Parlement se prononce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Parlement ne se prononce pas. Donc, les étudiants attendent que le Parlement se prononce, savoir si oui ou non on va répondre à leurs revendications. Alors, est-ce qu'ils vont gagner? Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce qu'on a vu, c'est la répression de la marche, la semaine de la manifestation à Rangoon, il y a quelques jours. Et surtout, ce qu'on apprend ce matin, et c'est pour ça que j'aurais tendance à être un peu plus prudente, c'est que les étudiants qui étaient à Letpadang, dans ce monastère, qui ont fait une pause sur la route et qui se sont arrêtés, ont été encerclés par la police. Ils y sont depuis le 2 mars. Aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils voulaient continuer leur marche. Ils en avaient marre d'être empêchés par la police d'avancer. Et il y a eu des heurts assez violents. Ils ont essayé de reprendre la route, de franchir les cordons de policiers, etc. Apparemment, là, dans les heures, en ce moment, pendant qu'on parle, ça se passe assez mal.
Ouais. Est-ce qu'à l'approche des élections, le regard de la communauté internationale est pris en compte par les autorités birmanes, puisque la communauté internationale suit de près ce processus électoral? Le fait que les étudiants manifestent en ce moment, est-ce que ça peut jouer en leur faveur?
Oui, certainement. Enfin, en tout cas, le regard de la communauté internationale, il est important à l'approche des élections. Apparemment, hier, je parlais avec Cécile Hall de l'association Afro-Birmanie, les étudiants auraient invité les diplomates étrangers à venir les rencontrer. Donc, tout ça est surveillé très près. Et le gouvernement, en fait, est dans une situation très, très délicate. Il peut pas laisser les choses dégénérer. Tout le monde a en tête le mouvement, le soulèvement étudiant de 1988, qui avait été vraiment réprimé dans le sang, qui avait poussé de nombreux opposants à l'exil. On n'en est plus là. Il n'est pas question pour le président Thein Sein de revenir à de telles pratiques.
Et Aung San Suu Kyi s'est exprimée, elle soutient les étudiants.
Alors, aucune position officielle prise ni par Aung San Suu Kyi ni par la LND, son parti. Mais ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que de toute façon, les étudiants, ils ne veulent pas tellement de ce soutien. Ils souhaitent vraiment rester sur une question sur la loi de l'éducation. Ils veulent éviter toute accusation de récupération politique. Et de son côté, pareil, la LND n'a pas tellement intérêt à l'approche des élections à aller à l'affrontement avec le gouvernement.
À suivre donc. Fiston, on a répondu à vos questions?
Effectivement, merci sincèrement d'avoir répondu à ces questions.
Ben c'est normal, on est là pour ça. Juliette Garbrand, bonne journée. Merci d'être venue. Ce sont vos questions à la rédaction. N'hésitez surtout pas et n'attendez pas le début de l'émission. Si vous avez des questions à nous poser, sachez que le standard est ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. Dans 20 minutes maintenant, notre débat du jour sur la situation sécuritaire au Mali. Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. Vos réactions après l'attentat vendredi soir à Bamako et l'attaque dimanche matin à Kidal, dans le nord du pays, une attaque qui visait le camp des casques bleus. Bakou nous dit, mais la nuit, on peut traverser la ville de Bamako sans rencontrer un seul véhicule de patrouille. Il faut des checkpoints, des fouilles corporelles, et surtout, il faut des agents équipés de matériel adéquat. Élevons le niveau d'alerte pour réduire l'insécurité, sinon je crains le pire, nous dit cet auditeur de Bamako. Vous continuez évidemment à nous rejoindre, et on en parlera ensemble de vive voix, juste après le journal dans un bon quart d'heure maintenant. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre Sonia. Des questions sur le Burundi. Florent est avec nous. Bonjour Florent.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Djamena au Tchad, on vous écoute.
Oui, je vous appelle. Oui, je vous appelle Nyamena Ouchad à propos du Burundi. Au Burundi, lorsque le parti au pouvoir s'est évadé de la prison. À propos, j'ai deux questions. Ma première question est de savoir quel risque représente cette évasion pour le pouvoir en place.
Alors, que représente cette évasion pour le pouvoir en place? On va replanter le décor, Sonia Rollet, il y a quasiment une semaine, Hussein Radjabou s'est évadé de prison alors qu'il purgeait une peine de 13 ans,
oui,
hein,
de
pour
13 ans.
Complot contre la sécurité de l'État. Il est toujours en cavale. D'ailleurs, la question de Florent tombe vraiment au bon moment puisque Hussein Radjabou a contacté hier plusieurs rédactions, dont la rédaction des RFI pour s'expliquer. D'abord, qui est ce personnage et pourquoi cette évasion met dans l'embarras les autorités?
Alors, c'est l'ancien mentor de Pierre Nkurunziza, le chef de l'État. Il a été président du CNDD-FDD, qui est le parti qui est actuellement au pouvoir. C'était un des stratèges du CNDD-FDD, avec beaucoup de soutien, en tout cas à l'époque, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une brouille avec le chef de l'État. Donc c'est quelqu'un qui est perçu comme étant d'abord un fin connaisseur, on va dire, de la politique burundaise, mm-hmm. avec des méthodes parfois assez fortes. Il était assez critiqué pour sa gestion, enfin en tout cas. Évidemment, l'aile qui l'avait fait tomber critiquait sa gestion du parti en disant qu'il avait un peu des méthodes autoritaires. Et puis, c'est quelqu'un qui a donc des contacts au sein du CNDD-FDD, qui a donc des contacts avec les anciens rebelles. Mmh.
Et qui est donc encore populaire auprès d'une partie des militants du parti présidentiel.
C'est ce qu'il prétend. Mmh. En tout cas, c'est assez difficile à mesurer. Ce qu'on peut mesurer, en tout cas, c'est qu'il a réussi à s'évader avec des complicités. Il dit qu'il l'a fait avec la complicité de ses frères d'armes de l'époque, de ses frères de lutte. Donc ça demande quand même un peu d'organisation, surtout que c'était pas le prisonnier qui devait être le moins surveillé, voilà, puisque c'était quand même quelqu'un auquel les autorités judiciaires avaient refusé la libération, la remise en liberté provisoire, et encore tout récemment, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était quand même surveillé. Là, il était à l'isolement, il a réussi à s'évader, et il a réussi... Lui dit qu'il est encore au Burundi, mais probablement plus à sortir du pays. Et
vous disiez
ça avec
ce matin qu'il avait appelé la rédaction des RFI avec un numéro de téléphone tanzanien.
Ouais. Tanzanien, voilà. C'était l'une des deux possibilités. Voilà, on sait pas exactement où il se trouve. C'est vrai qu'on peut toujours avoir un roaming. C'est quand même une indication, puisque les deux pays les plus probables où il aurait pu se trouver, ça aurait été la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les autorités veulent pas se prononcer là-dessus, surtout que lui-même, Hussein Radjabou, prétend qu'il est au Burundi. Mais les autorités disent que voilà, ils sont vigilants. Enfin, ils essaient de savoir où est-ce qu'il se trouve. Et oui, ils craignent. Ouais. Ils craignent Hussein Radjabou.
Florent, vous aviez une autre question.
Oui, l'autre question est que quelles sont les intentions de cet homme à quelques mois des élections présidentielles?
Oui, on est à 3-4 mois du scrutin présidentiel. Qu'a-t-il l'intention de faire aujourd'hui?
Alors lui prétend qu'il participera ou qu'il aimerait participer au processus électoral. Dans un premier temps, l'un de ses messages était plutôt pour son ancien, son ancien compagnon de lutte,
Pierre Nkurunziza, l'actuel président,
puisqu'il appelait à peu près tout le monde à faire opposition à un troisième mandat pour le chef de l'État. On sait que c'est le gros débat en ce moment au Burundi, que le président ne s'est toujours pas prononcé, mais très clairement, il voulait faire passer un message, et puis il a fait passer un message aussi. D'une manière indirecte à tous les autres opposants, puisque il a dit voilà, il faudrait que ces élections se passent avec la participation de tous les opposants sur le pied d'égalité, alors que du côté des autorités, bon, très clairement on dit non, c'est pas ça qu'il a du tout en tête, c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui pourrait, on l'a entendu ce matin, l'ancien porte-parole du président, conseiller à la communication, dire que voilà, parmi les inquiétudes qu'il y avait, il y a le fait qu'il monte une nouvelle rébellion si le résultat des urnes.
Donc il a
pas,
encore une capacité de nuisance.
En tout cas, c'est ce que estiment les autorités aussi, puisqu'elles en parlent aussi de ce problème ou de cette éventualité que Hussein Radjabou crée une nouvelle rébellion.
Merci beaucoup Sonia Rollet. Florent, bonne journée à Djamena. Merci de votre fidélité. D'autres questions à la rédaction des RFI, évidemment. Demain, surtout, appelez-nous. On a besoin de vos questions en amont pour préparer cette première partie. Sollicitez nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. 33 9 693 693 70. Dans 30 secondes, le journal. Et dans 10 minutes maintenant, ce sont vos réactions, vos témoignages, vous qui êtes à Bamako et au Mali, pour parler de la situation sécuritaire sur place. À tout de suite.